Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que j'entends un témoignage d'un chrétien dans un contexte d'église persécutée, il y a quelque chose qui m'interpelle au-delà de la persécution. C'est la paix qu'on peut voir dans le témoignage de la personne qui témoigne, malgré toutes les tribulations qu'il peut y avoir. Même, je ne sais pas si vous avez vu des fois ces images de chrétiens qui sont sur le point d'être exécutés par ISIS ou par les persécuteurs d'aujourd'hui. Mais quand on voit les visages, on voit cette paix. On peut voir des visages même qui, des fois, sourient. Et je ne sais pas où, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle souvent. Il me dit, mais comment on peut en arriver là, être dans un état aussi serein au moment où c'est le pire moment de la vie. Alors, que dit la parole? Que dit Dieu par rapport à ça? On peut se poser cette question, non? Et Dieu, il est où dans tout ça? Dans le livre de Jérémie, on peut trouver un élément de réponse. Livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 5 au 7. On est là dans un contexte de persécution. Le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Il est emmené captif à Babylone. Donc, il est persécuté. Babylone, c'est un contexte de violence, d'injustice, de corruption, de toutes sortes d'abus. Et donc, Babylone, à ce moment-là, est un empire qui domine sur le peuple d'Israël et qui a déporté le peuple d'Israël. Donc, à ce moment-là, dans ce passage de la parole, Dieu parle au peuple d'Israël à travers de Jérémie et à travers comme une lettre qu'il adresse au peuple d'Israël qui était destiné à rester 70 ans dans ce contexte-là de persécution, captif. Donc, versets 5 à 7, Dieu dit ces paroles. « Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. » Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alors, dans les premiers versets, versets 5 et 6, c'est quand même étonnant que, au milieu de ce contexte, Dieu nous appelle à construire des maisons, à se marier, à se multiplier, etc. Mais ça vous dit pas quelque chose aussi, cette parole de Dieu? Cette parole de Dieu, on la retrouve aussi à Genèse. Genèse, chapitre 1, versets 28 et 29. Quand Dieu dit à Adam et Ève, et soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous à nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Alors, il y avait un fruit qu'il fallait pas manger, mais tous les autres fruits, ils étaient là pour manger. Donc, il y avait une sorte d'harmonie entre Dieu et l'homme, et Adam et Ève. Il y avait comme une symbiose, une harmonie, une paix indescriptible, une paix absolue, puisque Adam et Ève n'avaient pas encore rompu ce pacte en mangeant le fruit défendu. Donc, que veut nous dire Dieu dans Jérémie? Qu'est-ce qu'il veut dire au peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Faites de même. Plantez du fruit, plantez des jardins, mangez-en. Et puis, il continue en disant, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Recherchez le bien dans la ville où je vous ai mené en captivité. Quel paradoxe, non? Un contexte de violence, recherchez le bien. Il est où le bien? On peut se demander, mais attends, c'est bien joli, mais y a tout mal, tout est mauvais là. Pourtant, Dieu appelle le peuple d'Israël à chercher le bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le bien? En français, dans les versions Louis II, Sommer, etc., on traduit par le bien ou par le bien-être, mais en hébreu, on traduit par shalom. Le shalom, qui est aussi traduit dans ce passage, dans beaucoup de langues, par la paix. Donc rechercher en quelque sorte le bien dans le sens la paix. Alors, souvent on a un concept de la paix qui se limite à la paix, c'est une absence de conflit, et voilà, c'est quand il n'y a pas de conflit. Mais en fait, là, Dieu se réfère à une paix, par le mot shalom, une paix qui fait référence aussi au bien-être. Une paix dans le sens développement durable. Une paix qui, voilà, chacun, quand chacun peut arriver à manger librement du fruit qu'il a planté, il peut en donner à d'autres, et puis chacun peut arriver à subvenir à ses besoins, et de cette manière-là, la création est préservée. Et le shalom, entre guillemets, c'est ce que vivaient Adam et Ève dans le jardin avant la chute du péché. Ils pouvaient manger tous les fruits. De cette manière, la création était en quelque sorte protégée. Et que veut dire Dieu par là au peuple d'Israël ? Qu'il est temps pour le peuple d'Israël de revenir à zéro, de recommencer à zéro. Dieu utilise ce contexte pour un nouveau départ. Il a fallu que le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu à tel point qu'il a fallu qu'il soit déporté, que Dieu qui nous laisse libres dans nos décisions de s'éloigner de lui ou pas. Dieu les a laissés libres dans leurs décisions. Ils ont décidé de s'éloigner de Dieu. Et bien, les conséquences, c'est qu'ils ont fini par être persécutés et être déportés. Pourtant, Dieu ne les abandonne pas. Il donne toujours une opportunité. Il donne toujours une occasion pour revenir au départ, revenir à zéro. Donc revenir aux origines en cherchant la paix. Donc Dieu confie la mission aux Israéliens de restaurer le shalom au sein de Babylone. Donc contexte de Babylone, on le rappelle, ville païenne remplie d'idoles, d'esclaves, ville violente remplie d'injustices, de dérives, exploitation sexuelle, oppression sociale, et une ville totalement livrée et dépendante du péché. Donc, les Israéliens connaissaient et la loi de Moïse, ils étaient supposés vivre la loi de Moïse. Ils savaient que l'opprimé, la veuve, l'orphelin, il fallait les bénir. Sauf que là, à Babylone, la veuve, elle était prostituée. L'orphelin, il était esclave. Et l'opprimé, il était persécuté aussi. Donc, apprenez à faire du bien. Dans Ésaïe 1:17, les Israéliens sont appelés à faire du bien, de rechercher la justice, protéger l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Et oui, ils devaient le faire aussi à Babylone. Donc, Dieu ordonne les Israéliens non seulement d'accepter ce contexte, mais il ordonne en plus de rechercher ce bien. Et ils devaient pouvoir, pour chercher ce bien, ils devaient devoir influencer et servir les Babyloniens. Il devait aimer les Babyloniens. Il devait aller au-delà de leur ego pour aimer le peuple de Babylone, et qui était corrompu et injuste et idolâtre. Donc quel défi pour ce peuple. Quel défi. Il s'agit en fait d'être artisan de paix, là où Dieu nous place. Sauf qu'on sait que quand on est face à la persécution, quand on est face à l'hostilité, la réalité, bien souvent, en tant que chrétien, elle n'est pas aussi rose, pas aussi facile. Et malheureusement aussi, on sait très bien qu'il y a plusieurs chemins auxquels on va pouvoir opter. La première solution, c'est la solution de facilité. La première solution, je me laisse influencer par la culture qui me persécute. Je m'abandonne et je me réconforte dans le péché. Je le banalise, je le justifie. Je le normalise. Ah, mais aujourd'hui, on est à une autre époque. On est au 21e siècle, non ? Donc, je normalise et je peux même diluer l'évangile, non ? Je peux justifier aussi le péché en défocalisant l'évangile, en interprétant à ma manière, non ? Pour que l'évangile colle aussi avec les désirs humains en tout premier lieu. Sauf que l'évangile, il ne s'agit pas de ça. L'évangile, il s'agit d'une parole qui donne la vie éternelle, mais aussi qui donne la vie pleine sur terre. La deuxième solution, aussi le deuxième chemin qu'on peut prendre quand on est face à une situation comme ça, c'est rester chrétien, mais on va se positionner comme victime. On va faire jouer nos mécanismes de défense et on va chercher à se protéger. On va militer. Peut-être on peut se lancer dans la politique même. Et on peut chercher à défendre notre communauté. Non, mais on est persécuté. Non, mais il faut. On va chercher à militer, à se battre, à s'opposer pour nos propres intérêts. Est-ce vraiment ça l'objectif de Dieu? Est-ce que ça c'est vraiment le but de l'évangile? Protéger seulement une communauté? Protéger seulement ceux qui ont dit « oui, j'accepte Jésus dans mon cœur ». Est-ce que c'est vraiment le but de l'évangile? La croix de Jésus, c'était pour seulement une minorité qui sont prêts à dire « oui, j'accepte Jésus dans mon cœur ». Ou est-ce que la croix de Jésus, elle est pour tout le monde? Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour toute l'humanité? Ou est-ce qu'il est mort juste pour 1% de chrétiens en France? La troisième option, le troisième chemin, c'est accepter notre situation telle qu'elle est. Accepter le contexte, au-delà du fait que ça peut être un contexte désastreux de persécution où on peut souffrir. Mais cette troisième option, elle nous appelle à obéir la volonté de Dieu et à le chercher, à chercher Dieu. Chercher cette paix qui nous remplit et qui nous fait amener à faire des choses presque surnaturel. Chercher le bien là où on est. Chercher la paix de Dieu là où on est. Il y a un exemple très clair dans un autre livre de la Bible qui est dans la même époque, de cette époque d'exil, qui est l'histoire de Daniel. Daniel aussi a été déporté, il était en exil aussi. Il vivait là, il était au milieu du peuple d'Israël. Il était captif par les Babyloniens. Alors Daniel, il s'est retrouvé même au milieu des autorités de Babylone. Il s'est retrouvé au milieu du roi de Babylone, au milieu de la politique, au niveau des autorités les plus hautes de Babylone. Il est même arrivé à être conseiller, il a même arrivé à donner des conseils au roi de Babylone. Alors, c'est pas que Dieu l'a envoyé d'un coup comme ça en téléportation pour être avec le roi. Non, il y a tout un chemin pour arriver là, pour en arriver là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit arriver chez le roi ou tout le monde doit faire la politique. Non, chacun, on a des dons, des talents, on a une histoire de vie qui fait que Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais Daniel, il a d'abord cherché à obéir à Dieu. Et avant que Daniel puisse influencer l'empereur, il cherchait à plaire à Dieu en se maintenant pur, en faisant le bien et en adoptant les attitudes suivantes. D'abord, il a choisi de vivre avec les Babyloniens. Il a choisi de les accepter. Il a choisi d'accepter la culture, au-delà du fait que tout n'est pas rose. Il a appris leur langue. Il a appris leur culture, leur art, leur science. Il faut dire que les Babyloniens, au-delà de toutes ces injustices, ils avaient quand même un point fort, c'est qu'ils étaient très développés au niveau de la science, au niveau des arts. Et à Daniel, il n'était pas indifférent par rapport à ça. Et de cette manière, Daniel a gagné le respect des Babyloniens, parce qu'il a appris à faire avec. Pour autant, Daniel ne se soumettait pas aux valeurs injustes qui étaient contraires à celles de Dieu. Quand les Babyloniens s'agenouillaient pour adorer d'autres dieux, Daniel ne le faisait pas. Il restait ferme dans sa foi. Alors, il aimait beaucoup les Babyloniens, il partageait avec eux, il vivait avec eux. Par contre, il restait fidèle à Dieu. Et c'est ce qui faisait la différence. C'est qu'en aimant, il apportait cette paix, mais à la fois, il apportait un témoignage pour montrer qui était vraiment le vrai Dieu d'amour, qui est pour tout le monde. Et qui a une mission auprès de tout le monde. La deuxième attitude que Daniel avait à cette époque-là, il cherchait à obéir à Dieu dans un contexte de persécution sans pour autant être dans la défensive. Il s'agit en quelque sorte d'être artisan de paix dans un monde corrompu, en rendant témoignage, en vivant publiquement sa foi, et en faisant vivre l'espérance de nos jours en Christ, en sachant pardonnant, en sachant pardonner et en servant son prochain. Ce modèle est en quelque sorte un modèle de mission. Un modèle de mission comparable à l'Église persécutée d'aujourd'hui, qui nous amène à comprendre aussi certaines attitudes de chrétiens persécutés, certaines attitudes de mouvements d'Église persécutée, d'Église de maison, très souvent. Et il est aussi applicable, autant applicable dans les pays persécutés, au Moyen-Orient, etc. On a vu la carte avec portes ouvertes, mais c'est aussi applicable dans nos sociétés occidentales, où de plus en plus, on entend parler d'une persécution morale grandissante. Où de plus en plus, il y a une certaine hostilité au christianisme et à l'Église. Il y a beaucoup de témoignages de chrétiens persécutés qui nous parlent de ce contexte comme un contexte normal auquel la parole nous dit que pour un chrétien, c'est normal d'être persécuté d'une manière ou d'une autre. Et il y a un pasteur chinois qui affirme clairement, ne vous inquiétez pas si vous êtes persécuté. Inquiétez-vous plutôt si vous ne l'êtes pas. Et un responsable d'église de maison en Chine, un autre, dit, nous aurons la paix aussi longtemps que nous gardons notre foi pour soi-même et que nous ne la partageons pas avec les autres. La raison pour laquelle les chrétiens des églises de maison de Chine sont arrêtés, harcelés ou emprisonnés est que nous ne pouvons pas nous taire. Cette paix qu'ils ont en eux les amène à la transmettre à d'autres. Alors en écoutant d'autres témoignages de pasteurs en Iran ou en Irak, on entend dire souvent, les églises de maison grandissent, les églises se multiplient, mais alors comment si prêcher la parole est interdit de le faire dans la rue? Et la réponse de ce pasteur, c'est « Mais en fait, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Nous, on essaye juste de vivre l'Évangile comme vous aussi en Occident, vous essayez de le vivre malgré les pressions qu'il peut y avoir des idéologies, de la pornographie, je ne sais pas quoi. Nous, on n'est pas exposés à tout ça, mais on est exposés à d'autres choses. » Et ce pasteur disait simplement, quand on vit l'Évangile, quand on fait appel à l'Esprit Saint, Dieu s'occupe du reste. Et en reprenant ce passage, quand on a l'Esprit Saint, quand on cherche Dieu par la prière, Dieu nous donne cette paix qui se transmet à travers de notre témoignage quand on va au travail, quand on va dans la rue. Et ce pasteur iranien disait, voilà, ce qui interpelle les gens, c'est le témoignage dans les familles, le changement de comportement, la réaction par rapport aux violences. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans la vie des gens. Et les gens voient comment les gens vivent l'Évangile. Ils n'écoutent pas une prêche telle qu'on est en train de faire nous tous les dimanches, mais ils voient l'Évangile et ils comprennent qu'il y a quelque chose de différent, qui fait la différence. Et cette différence, c'est le shalom qui est transmis. La persécution, c'est un contexte auquel on est tous amenés à vivre d'une manière ou d'une autre, mais pour autant, il ne s'agit pas de chercher le mal, de chercher à se faire un mal, puisque la parole, Dieu nous donne des promesses. D'abord, il nous dit qu'il sera avec nous. Il dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La victoire, elle est déjà faite, elle est à la croix. J'ai vaincu le monde. Dans Jérémie 29, un peu plus loin, verset 11, on nous dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Mais seulement si on accepte aussi de l'obéir, d'écouter sa volonté, d'aller là où il nous place et d'accepter le contexte là où il nous place, de chercher sa paix. Donc, par rapport à ce témoignage du pasteur chinois, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je ne vis pas du tout de persécution? Est-ce que je ne suis pas confronté d'une manière ou d'une autre pendant la semaine face à des gens qui connaissent pas Dieu ou qui ont des préjugés peut-être. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça? Est-ce que le fait d'être dans ce monde nous confronte à transmettre cette espérance en Christ? Parce qu'on est face à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu les mêmes bénédictions que nous, de connaître un Dieu d'amour qui donne la vie éternelle, mais aussi la vie pleine sur terre, malgré les tribulations qu'on peut vivre. Donc, comment être artisan de paix? En étant témoin d'espérance en Christ, là où Dieu nous place. Et Jésus, lui aussi, vivait en contexte de corruption, d'adultère, prostitution, etc., etc. Et pourtant, il a porté aussi le shalom. Il a porté un témoignage d'espérance, de vie éternelle, mais aussi de paix. Dans Luc 17, versets 11 à 19, l'histoire des lépreux, pour ceux qui ne la connaissent pas, Jésus, à un moment donné, sur son chemin, il voit des lépreux. Il y a 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, ils sont tous guéris. Mais il y en a seulement un qui va le reconnaître comme Seigneur. Il y en a un seul qui va revenir pour dire à Jésus, c'est toi le Seigneur. Les 9 autres, ils ont continué leur chemin. Ils sont guéris, mais ils continuent leur chemin. Alors, Dieu, Jésus, guérit quand même les autres 9 lépreux. Certes, nous sommes appelés à proclamer l'évangile afin que plus de personnes puissent reconnaître Jésus. Ça, c'est un appel, c'est un commandement qu'on se doit de faire. Il ne s'agit pas de laisser cet appel, au contraire, il faut continuer. Mais nous devons comprendre par là que nous sommes aussi appelés à servir, à aimer, à restaurer, à réconcilier, à guérir l'homme, l'image de Dieu, notre prochain, qui est tellement corrompu par le péché. Nous devons travailler à cela, et c'est aussi ça, rechercher le bien commun, rechercher le shalom. Et c'est aussi par ça que d'autres personnes pourront comprendre qu'il s'agit d'un Dieu d'amour, celui qu'on a. Ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu d'amour, qui est un Dieu tout-puissant et qui transforme des vies, qui restaure des vies, qui restaure, qui guérit, et qui fait comprendre que Dieu nous aime à tous de la même manière. Est-ce que par là, on pourrait remettre en question par rapport à nous, chrétiens, de quelle manière on choisit d'aimer et servir notre prochain? Est-ce qu'on ne choisit pas d'aimer ceux qui potentiellement pourraient se convertir? Ou est-ce que vraiment on choisit d'aimer le monde tel que Jésus l'a aimé? Est-ce que on ne choisit pas d'aller vers là où il y a plus de confort, ou là où c'est plus facile d'atteindre des personnes pour parler de l'espérance en Christ? Ou est-ce que vraiment on choisit d'apporter la paix et de vivre et de servir et d'aimer là où c'est moins facile? Aimer, il y a une expression qui dit en Argentine, aimer, c'est pour détester, c'est pour les flemmards. Aimer, c'est pour les forts, pour les courageux. C'est pas facile d'aimer. C'est pas facile d'aimer, et apprendre à aimer, c'est pas facile non plus. C'est un apprentissage tous les jours. Et la parole de Dieu à travers de Jésus le dit bien clairement, explicitement, on doit aimer jusqu'à nos ennemis. Dans Matthieu 5, 44, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Waouh, là, on arrive à un point plus clair, ça ne peut pas être plus clair, mais à la fois, plus défiant que ça, c'est difficile. Aimer celui qui nous persécute, un drôle de commandement pour de la part de Jésus. Jésus nous fait comprendre par là que les mauvaises actions des gens qu'on peut voir envers nous, envers d'autres, sont en réalité des appels à l'aide, des appels au secours. Des actes de persécution sont la conséquence de la souffrance de personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont reçu un mauvais témoignage de Dieu, qui ont vécu une mauvaise expérience dans une église, ou une mauvaise expérience dans sa propre famille, ou une mauvaise expérience, une image de Dieu déchirée à travers d'un abus sexuel, comme c'est l'actualité en ce moment avec l'église catholique. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que Dieu est religion et oublient que l'homme est pécheur et qu'on soit chrétien ou pas, on est aussi pécheurs les uns que les autres. Mais Dieu est amour. Dieu est tout puissant, Dieu est amour. Cet appel de Jésus nous invite à ne pas considérer les mauvaises actions comme des attaques, mais plutôt comme des appels d'aide, des appels au secours. Et nous devons comprendre ces appels au secours. Et pour comprendre ces appels au secours, il faut qu'on puisse aimer la personne qui est en face et dépasser notre ego, notre affect, pour pouvoir regarder les yeux avec nos propres yeux la personne en face, mais avec les yeux de Jésus, et pouvoir écouter. Parce que ces personnes ont besoin d'être écoutées avant de pouvoir comprendre quelle est l'espérance, quel est le chemin. Il y a un chemin qui existe, qui donne la paix, qui donne la vie éternelle et qui donne la vie pleine. Nous devons de cette manière être des ponts au lieu d'être des murs. Parce que les murs, c'est la religion qui crée les murs. Mais les ponts, c'est Dieu qui crée les ponts, c'est Dieu qui réconcilie, c'est Dieu qui connecte. Dans 2 Corinthiens 5,18, Dieu le dit clairement. Dieu nous réconcilie avec lui-même pour que nous-mêmes puissions prendre notre ministère de réconciliation et faire en sorte que nous soyons ambassadeurs de cette espérance en Christ, qu'on puisse être des ponts. Mais Dieu nous donne cette capacité de répondre à la réalité des gens. Et cette capacité, elle ne sort pas de nos propres forces, mais bien de notre identité en Christ. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Il s'agit de notre décision d'avoir le cœur de Dieu et l'esprit du Christ. Si on ne considère pas cette identité que Dieu nous donne, on va tout faire par nos propres forces. Et alors, forcément, on aura du mal à réagir. Si on ne se sent pas aimé par Dieu, on va avoir du mal à aimer. On va avoir du mal à aimer notre prochain. Si on se sent condamné par Dieu, on va facilement condamner les autres. Dieu ne nous condamne pas. Il nous délivre. C'est un Dieu d'amour. Et la croix, elle est pour tout le monde. Si je me sens encore condamné par Dieu, je ne vais jamais arriver à aimer l'autre. Je vais le condamner. Pourtant, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je ne me sens pas pardonné par Dieu, je ne vais pas pouvoir pardonner mon prochain. Dieu nous donne cette capacité à pardonner si nous-mêmes, on se sait pardonner par Dieu et on accepte de pouvoir vivre avec son Esprit Saint tous les jours. Enfin, le dernier appel que Dieu fait au peuple d'Israël, c'est de prier en l'Éternel en sa faveur. En réalité, on pourrait se dire pourquoi Dieu il agit pas maintenant, pourquoi il pourrait très bien délivrer l'Église persécutée, il pourrait très bien le faire tout seul. Il pourrait faire venir Jésus maintenant aussi. Dieu est tout puissant, donc il pourrait très bien le faire. Il n'a pas besoin de nous. Pourtant, il n'en est pas ainsi. Parce que s'il nous a créés, il nous a créés pour une mission, pour un objectif bien précis. C'est que chacun d'entre nous devons répondre à son appel. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller en Égypte ou en Inde. Certains, oui, mais d'autres, s'ils ne savent pas aller en Égypte ou en Inde, ce sera peut-être à Toulouse pour intercéder pour l'Église persécutée, intercéder pour ces chrétiens qui sont au milieu de la persécution, intercéder pour ceux qui persécutent. Il y a de nombreux témoignages de non seulement de chrétiens, mais aussi de gens qui persécutent, qui ont fini par se réconcilier avec Dieu. Des terroristes qui, en allant depuis l'Afghanistan, en sortant de l'Afghanistan, en allant vers l'Europe pour se relier et mettre en action des plans d'Al-Qaïda ou des organismes terroristes, sur le chemin, certains ont pu se réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, il le fait grâce à son Esprit Saint, mais il le fait aussi au travers d'une Église universelle qui intercède. Il pourrait le faire très bien tout seul, mais Dieu veut que chacun de nous prenions part à sa mission. Et si aujourd'hui, il y a un réveil dans le Nord, dans l'Afrique du Nord, près des Berbères, où aussi il y a des terroristes qui, tout comme l'apôtre Paul, se réconcilient et avec Dieu et décident de le suivre, c'est parce qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui intercèdent depuis l'Argentine ou depuis Marseille pour ces gens-là. Donc, raison de plus pour intercéder encore plus, parce que Dieu attend de nous qu'on puisse prendre part à sa mission. Dieu ne fera pas revenir Jésus si son Église ne prend pas part à la mission. On pourra attendre longtemps encore. Mais si nous prenons part à sa mission, nous faisons avancer le règne de Dieu dans le monde. Parce que Dieu a décidé de nous donner cette responsabilité. Au lieu de faire tout seul, il nous a délégué cette responsabilité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Et il y a aussi un dernier témoignage d'un rebouteur en Argentine aussi, qui a aussi beaucoup d'occultisme. Et ce rebouteux qui s'est converti après, qui s'est réconcilié avec Dieu, etc., ramenait témoignage. Et quand on lui posait la question, finalement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu faisais tes actes d'occultisme, etc., c'est quoi qui te coûtait le plus? Et sa réponse, c'était celle-là. Ce qui me coûtait le plus, c'est quand l'Église dans la ville, elle était unie. Et quand il priait, je ne pouvais pas faire mes actes d'occultisme. Alors ça, c'est bien le pouvoir de la puissance de l'Esprit-Saint de Dieu qui agit grâce à son Esprit-Saint, mais aussi grâce à son Église qui intercède. Nous devons donc dépendre de Dieu et pas d'autre chose pour vivre, comme Daniel. Et nous devons faire appel à son Esprit-Saint par la prière, puisque notre bonheur dépend du sien. Et simplement, rappelons-nous que dans Jérémie 33, verset 3, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu répond aux prières. Simplement, c'est une invitation à ce qu'on puisse repenser notre forme d'intercéder, mais aussi d'agir comme Église, notre forme d'aimer notre prochain, de choisir où on va, notre attitude, est-ce que je vais me mettre sur ma défensive et je vais rester les bras croisés jusqu'à ce que Jésus revienne, ou est-ce que on va chercher à semer l'espérance en Christ, que ce soit par la prédication, mais aussi que ce soit par des actions concrètes pour chercher la paix, pour bénir, pour servir notre peuple. Simplement, je voudrais terminer par une petite vidéo qui résume notre dernier appel qu'on commentait avant avec Aro, sur un mouvement en Argentine, un mouvement auquel on espère pouvoir développer ici, et qui s'appelle « Moins de blabla, plus de cœur ». C'est un mouvement inter-église qui est né à partir de la pandémie. En Argentine, la crise économique est telle avant la pandémie, qu'avec la pandémie, elle s'est encore plus amplifiée. La pauvreté a dépassé les 40% de la population. Et donc, face à ça, l'Église réagit en cherchant à réconcilier les gens et aussi en servant et en aimant le peuple. Il y a aussi beaucoup de pression là-bas avec les idéologies occidentales, etc. Pourtant, ce mouvement moins de blas, plus de cœur, réconcilie beaucoup de personnes qui, à travers de ce message, comprennent que le Dieu qu'on a, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu d'amour, qui nous aime à tous, à la folie, et sans exception. Et on pense que c'est une porte d'entrée et c'est une réponse de Dieu face aux pressions qu'on peut vivre en Occident, en France ou en Amérique latine. Et une réponse par rapport à la persécution morale aussi qu'on peut sentir de plus en plus dans notre environnement, dans notre travail, dans les facultés. Donc voilà, je vous laisse avec ces images. La vidéo Menos Bla, Massamol.
Esto es solo un náufrago, acaso sueño volver. Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo. Da una gota de agua viva. Here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero. And now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed. But my failures, you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos. Guide me to your heart, my promised land. Da una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado.
Voilà, pour terminer, je vous redis une phrase de la part d'une dame et de certains frères de ce quartier, en fait, un quartier où, voilà, bidonville, où on règne la pauvreté, mais aussi beaucoup d'injustice, exploitation, etc., la drogue, etc. Elle nous dit que merci pour venir. Merci pour venir tous les 15 jours ou même une fois par mois parce que ce que vous nous laissez un message de paix qui est différent des autres. Il y a beaucoup d'associations, des fois, qui œuvrent, mais la paix que vous nous apportez à travers de ces repas que vous partagez avec nous, des ateliers, c'est une paix qu'on ne peut pas décrire. Merci pour venir. Alors, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile de prêcher l'évangile quand il y a du rejet, mais pourtant, l'évangile est quand même prêché au travers d'actions, et sans qu'on le sache, Dieu est à l'œuvre. Alors, simplement, je voudrais vous inviter à qu'on puisse se rappeler dans nos prières pour nos frères qui sont en contexte de persécution, que cette paix puisse impacter leur environnement, leur entourage, mais aussi intercéder pour nous comme Église occidentale, pour que Dieu nous utilise aussi, et s'il nous permet d'être libres, c'est pour qu'on puisse mettre en action ce qu'il nous donne à travers de sa parole. Bon, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, et tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes plus que tout, Seigneur, et tu aimes aussi ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. On veut te demander pardon pour des fois peut-être choisir d'aller vers là où c'est plus facile ou là où nous dirige la religion, Seigneur, qu'on se renferme des fois peut-être dans notre cocon, dans notre confort social, mais Seigneur, on veut juste te demander que tu puisses nous accompagner pour aller là où tu nous veux, Seigneur, parce qu'on sait que c'est le meilleur endroit pour trouver ta paix, pour notre bonheur, parce que notre bonheur dépend du tien, comme dit ta parole, et c'est là qu'on veut être, Seigneur. On sait que tu es un Dieu qui donne la vie, tu n'es pas un Dieu qui persécute quand on te suit, Seigneur, tu nous donnes la vie, même en contextes les plus difficiles, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, qui nous choisit et qui nous appelle à, à pouvoir agir, intercéder. On veut se rappeler ce matin de nos frères en Irak, en Corée du Nord, en Chine, Seigneur, et que tu puisses nous aider, développer, multiplier l'intercession ou multiplier nos actions qu'on peut faire aussi, nous, ici, dans notre société, où de plus en plus on peut sentir de la persécution morale, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta réconciliation, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu tout-puissant qui donne la vie éternelle et la vie pleine dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen.